Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes. Une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, nous avons la joie d'avoir dans ces studios de la rue d'Assali, de Radio Occitanie, Simone Allier d'Aram. Simone, bonsoir. Merci beaucoup d'être venue nous rejoindre. Alors Simone, nous allons parler de ton dernier recueil, Dialogue d'outre-nuages. Mais si tu le permets, comme d'habitude, je vais faire quelques annonces, étant précisé, bien sûr, que nous recevons beaucoup de livres de poésie, beaucoup de recueils, des revues, et que nous n'avons pas la capacité de parler de tout ce que nous recevons. Néanmoins, nous invitons bien sûr les auditeurs à prolonger nos émissions par la consultation de notre site les-poètes.fr qui comporte une rubrique parution où beaucoup de parutions de poésie donc figurent. Donc je vous invite à vous rapprocher de ce site pour voir un petit peu ce qui paraît dans le monde de la poésie contemporaine. Alors, ceci étant, je vais vous signaler la parution d'un deuxième livre aux éditions Carder de Marie-Françoise Jesquier, qui a comme titre « La parole comme un cristal de sel », donc aux éditions Carder. Marie-Françoise Jesquier, je l'avais connue par ce qu'elle avait fait paraître chez Michel Cozem, à Encre Vive, un recueil qui s'appelait « Aux confins du printemps », c'était en 2013, et puis ensuite par les éditions Carder, puisqu'elle avait fait paraître aux éditions Carder « À hauteur d'ombre ». Donc elle récidive chez cet auteur avec un recueil bien illustré. C'est un recueil qui est assez conséquent et qui ne vous coûtera d'ailleurs que 12 euros. Quelques extraits dans le point mort de l'été, ça tombe bien. Le chemin du secret danse à la chaleur. C'est une phrase de René Char, un vers de René Char. Jardin pétrifié, tel un grand lézard figé par la peur d'exister. Seul vent bouscule les ombres. Les fleurs restent en elles-mêmes. Les statues aux yeux vides reçoivent le soleil en égarement. Les tourterelles filent les métaphores en longues coulées de mauvais coton. Le recoulement, en signaux intermittents, morcelle l'air, vrillé de chaleur. Signaux, morse, désossés, les mots perdent leur impulsion dans le point mort de l'été. Marie-Françoise Jesquier, la parole comme un cristal de sel, donc c'est une poésie de célébration dans un langage. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait dans ce langage-là de temps en temps certaines similitudes avec un livre que tu connais bien, Simone, puisqu'il s'agit de Bois flotté de Colette Elissalde. Donc décidément, vous voyez, c'est le dernier livre de poésie de Colette Elissalde, elle que j'avais connue, que j'ai lu pour la première fois dans la revue de Henri Heurtebise, Multiple. C'est là que j'ai découvert Colette Elissalde. Alors c'est notre ami Gilles Lade qui lui a fait une préface très courte, je peux lire d'ailleurs. Les poèmes de Bois flotté sont une célébration du bonheur, là aussi, donc poésie de célébration, mais de l'ancien bonheur à la lumière portée du deuil. De page en page se lit, se délie la longue stupeur de la solitude, le traître engourdissement lorsque abeilles et soleil ne font plus qu'un. Alentour, tout brille, brasille, comme au temps où l'émotion des amants accouchait du silence. Le chagrin révèle le plus intense et le plus poignant du passé, ce qui fut amour, l'est plus encore, comme s'il allait revivre. Je planterai au clocher mon nom, j'ajouterai un codicille, je reviendrai un jour, je te prendrai la main. Il y a une élévation dans le regard de celle qui mesure l'absence, il allait se résonner dans le silence. L'épreuve a centré les images, a défini les couleurs au plus juste, a doucement précipité le rythme des mots, car la vie est plus que jamais là, déliée, innombrable, surgissant, rajeunie des saisons passées. allons à la suite Colette et Isalde, par-delà tous les bois flottés du destin, surprendre la feuille morte, caresse ensemençant la terre. Voilà, donc nous aurons l'occasion de reparler de ce livre de Colette et Isalde, puisque nous a promis donc de nous rejoindre dans cette émission. Mais je tenais à le signaler, Colette Isalde, qui est enseignante à la retraite, ancien professeur d'histoire, et qui habite notre région, puisqu'elle vit à Albi. Voilà, et puis, alors, un livre auquel, vraiment, il y avait également une très bonne critique de Colette Isalde, donc, qui est ce livre paru à la librairie Galerie Racine, à Paris, de Jean-Marie Corbusier, que vous pourrez trouver, je n'ai pas le temps de la lire, mais que vous pourrez trouver sur notre site les-poètes.fr et dont nous reparlerons bien sûr avec elle lorsque nous ferons cette émission sur ce livre. Alors un livre de Jean-Pierre Denis qui s'appelle « Tranquillement inquiet », un oxymore qui me ravit.
Un oxymore ravissant.
Et qui peut-être définit une certaine catégorie de poètes, moi, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire ces gens qui sont aussi imprégnés du doute. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans ce, comment dirais-je, la fulgurance de certains poètes qui sont dans l'affirmation, dans le combat, dans... Là, non. Avec Jean-Pierre Denis, Tranquillement inquiet, cette magnifique poésie aux éditions Ad Solem, qui publie d'excellentes choses, les éditions Ad Solem. Jean-Pierre Denis, qui est le directeur de la rédaction du journal La Vie, et qui est poète, auteur de plusieurs recueils chez Ad Solem. Nous avions eu le plaisir de le recevoir ici, à ce micro, Jean-Pierre Denis. J'espère que nous aurons bientôt ce plaisir, car je tiens absolument à faire quelque chose sur Tranquillement inquiet. Alors, Tranquillement inquiet, il dit ceci. Ce nouveau recueil de Jean-Pierre Denis tient tout entier dans cet oxymore, attitude en même temps qu'interrogation. Il veut dire l'ignorance que nous entretenons au sujet de nous-mêmes. Sens de la vie, but de l'existence, réussite. Nous aspirons à la clarté et en même temps nous composons avec l'hypocrisie qui ménage notre espace vital dans la société. Sans complaisance, Jean-Pierre Denis s'attache à faire tomber ses masques, l'espace ouvert par l'écart des pommes, entre guillemets, plus ou moins jointes, constitue le creuset de ce recueil, son secret aussi. La parole poétique vient nous inquiéter tranquillement, mais profondément et non sans ironie. Elle nous invite à l'imprévu, à commencer parce que le souci de nous-mêmes cache trop souvent à notre regard de point notre vie. Alors, il y a dans ce recueil, qui est, je trouve, vraiment sublime, il y a au contraire une ironie extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Par exemple, une histoire d'amour. Tu dis, peux-tu être ? Je dis, peut-être. Tu dis, suis-je belle ? Je dis, attends, je vis de ma corbeille. Tu te doutes de quelque chose ? Je doute de tes doutes. Tu dis, je t'aimais pourtant. Ah, que j'aime que tu m'aimes. Tu dis, c'est du passé. Je me dis, ça va lui passer. Tu dis, je te quitte. Je dis, ne quitte pas. Je te reprends dans un instant, le temps de snapper ma conversation. Voilà. Donc le ton est donné par ce simple texte. Je pourrais en prendre un autre très rapidement. On se retrouvera, par exemple. Dôme à homme, avec le marronnier, un jour je m'expliquerai. Fouillant mes poches, je lui rendrai tout ce que jeunesse doit, ce que je peux facilement lui reprocher, ce qui brillait sans valeur, et cette écorce que j'ai maintenant comme lui, un peu vrillée, surtout cette écorce. Voilà. Donc, alors on rappelle que Jean-Pierre Denis adore les arbres, qu'il a fait d'ailleurs un très beau recueil sur les arbres. C'est un passionné des arbres. Alors, il y a là, dans ce recueil, une espèce d'éloge du doute, qui est quelque chose d'assez. Il dit c'est une autre forêt, ce recueil, des mots et de doutes. Une forêt de mots et de doutes. C'est exactement ça. C'est-à-dire un travail sur le langage qui est toujours vraiment extraordinaire. Et en même temps, mais ce regard sceptique un petit peu sur les solutions faciles du monde et même des poètes, hein, des poètes de la déclamation, peut-être de l'engagement tonitruant, on est loin de ça et en même temps je crois qu'on est totalement dans la vie. Il y a au sens le plus noble du terme dans ce recueil tranquillement inquiet de Jean-Pierre Denis, je crois qu'il y a aussi une éloge de l'humilité, mais au sens exact du terme, au sens étymologique du terme. Hein. C'est-à-dire que également Jean-Pierre Denis, quelqu'un qui dirige l'hebdomadaire catholique La Vie, donc qui est habité par la foi, et il a cette humilité. En même temps aussi, il peut avoir des instants de doute, bien sûr. Voilà, c'est pour ça qu'il a des doutes. Voilà.
Ça va ensemble. Voilà.
Alors, je recommande vraiment cette lecture, Tranquillement inquiet, poésie, aux éditions Adsolem. Très beau recueil qui vous coûtera 18 euros et nous ferons, j'espère, bientôt le plaisir d'avoir Jean-Pierre Denis à ce micro. Alors, Simone Allier d'Aram, un nouveau recueil. D'abord, on va rappeler un petit peu qui tu es. Tu t'es mis à la poésie un peu tard. Un peu comme Colette Elisalde, non?
En fait, non.
Oui, non.
Je m'y suis
tu as publié, mais tu as publié tard.
Voilà.
Hein? Voilà.
Je ne disais à personne que j'écrirais.
Oui.
Mais j'ai toujours écrit.
Oui. Et donc, tu as publié, il y a combien de temps? Tu as commencé à publier, il y a...
Quand on m'a, tout à fait par hasard, inclus dans le cercle de poésie de l'ICT.
D'accord, l'Institut catholique
de
Toulouse. Voilà. Alors bon, et donc depuis une succession de recueils, on rappelle quand même que tu es un ancien professeur de médecine, donc tu viens du milieu scientifique, du milieu médical au plus haut niveau, puisque tu étais chercheuse, que tu fais partie de l'Académie de médecine. Que tu fais partie de l'Académie de Jeufleuraud, puisque tu es maître
SGE. Je ne fais pas partie de l'Académie de médecine. Je fais partie de l'Académie des sciences.
Des sciences, pardon. Inscription et belles lettres, dont le directeur est notre ami Yves Le Pestipon, c'est ça?
Oui, actuellement.
Oui, actuellement. Hein, oui. Voilà. Alors, Simone, fais paraître collection poésie, dialogue d'outre-nuages. Après cette succession de recueils, dont un qui constituait le numéro 450 de la revue Encre Vive, qui s'appelait Syllabe, et avant, il y avait Désinvolte Eros, toujours dans cette même collection poésie, copie, média. Alors, il y a une phrase d'Hölderlin que j'ai relevée avant de venir, qui dit ceci, « Qui marche sur sa détresse grandit ». Et je me suis dit, dans « Dialogue d'outre-nuages », c'est peut-être une bonne introduction pour le ton général de ce recueil. On aurait pu dire la même chose d'ailleurs de Bois flotté de Colette Elisalde.
Ben oui, hein? Ah oui. Ben.
Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Qui marche sur sa détresse grandit?
Si tu la piétines, elle n'existe plus.
Oui.
Comme tout ce que tu écris disparaît de ton esprit, en ce qui me concerne, parce que c'est écrit.
Donc il peut y avoir une catharsis par l'écriture.
C'est cathartique, absolument.
Hein? Voilà. Et en même temps, il y a un phénomène, alors il y a deux phénomènes, il y a ce phénomène-là, qui est un phénomène qui dont l'intérêt est également celui du créateur, celui qui écrit, qui en a le bénéfice immédiat. Mais indépendamment de ça, et parallèlement à ça, il y a aussi un phénomène qui est purement artistique. C'est-à-dire que ce que l'on produit peut être considéré comme une véritable création artistique, comme une véritable œuvre d'art. Et ça, ce n'est pas au bénéfice personnel, mais au contraire, c'est destiné à l'autre et au partage.
Au partage, absolument. Voilà. De toute façon, donc, tu as trois façons de visiter un écrit. Celui qui l'écrit, celui qui le lit tout bas, et celui qui le lit tout haut.
Oui.
Ça fait trois recréations.
Récréation. Et on peut lire un texte d'ailleurs en y voyant un sens des images et un ton peut-être particulier que l'autre lecteur ne verra pas. Voilà. Et ça, c'est peut-être la grande différence entre la poésie quand même et la prose, me semble-t-il.
Oui.
C'est-à-dire cette multiplicité de sens qui n'est absolument pas une trahison de l'auteur.
Pas du tout,
voilà.
mais qui est une création nouvelle du lecteur.
Et c'est peut-être ça le miracle aussi de la poésie, et qui fait que la poésie reste quand même, comment dirais-je, un centre de fascination littéraire qui ne se vide pas, quoi.
Hein? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi.
Alors, dans ce recueil, il y a, alors comme de Boisfauté d'ailleurs, de Colette Elissalde, il y a aussi en filigrane le deuil.
Voilà. Le deuil. Les deux derniers, Desinvolteros et Dialogue autour de nuages, font une espèce de suivi, si tu veux, du deuil d'un deuil familial ou d'un deuil de deuil en. Voilà. Avec la différence que le dernier, Dialogue d'outre-nuages, je l'ai séparé en trois morceaux. Oui. Le deuil pendant, le deuil un peu plus tard, et puis la reconstruction.
Oui. Il y a un historique là.
Voilà.
Oui. Oui. Alors d'ailleurs, chaque paragraphe a un titre. Hein? Tôt.
Tôt, tard et toujours.
Voilà.
Parce qu'il te reste toujours quelque chose d'un deuil.
Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Donc les trois étapes. Tôt, tard et puis.
Toujours.
Toujours. Alors je crois que le mieux c'est de t'écouter. On va te demander de bien vouloir nous lire donc des extraits. Donc de Dialogue d'outre-nuages.
Et je vais d'abord commencer par un texte.
D'introduction,
si tu veux, qui me semble une bonne introduction pour Dialogue d'outre-nuages, mais qui vient de Desinvolteros. Le premier jour sent, on ne s'en rend pas compte. Les murs pâlissent, le rire a perdu ses grelots, les concertis sont terminés, les miroirs sont embrumés, tu n'es pas là. Apprenti solitude, les fleurs ont perdu leur odeur et tu n'es pas là. Éternel veuvage, comment peux-tu n'être pas là sans moi?
Je viens de texte.
Et alors ensuite, bien sûr, on passe au dialogue d'automne avec la première partie qui se rapproche de Desinvolteros. Et qui est incontestablement triste.
Oui, dans l'immédiateté.
Dans l'immédiateté de l'événement.
Oui.
De balayure en balayure, je vais ricanant mes blessures, l'air n'étant que reflets improbables et bleuâtres, utiles aux oiseaux. Un vent froid secoue les nuages zébrés, sur un drôle de sapin aux branches retournées, je rame entre les arbres où pleurent les souvenirs, des lambeaux d'angoisse s'agrippent à mes mains repliées. Je suis morte avant d'être tuée. Le temps d'avant n'est plus que fumée sans odeur. Le temps devant est un aveugle hébété, meurtri dans sa gangue durcie. Ça, c'était le dernier de Toto. Alors, petit à petit, au fur et à mesure des textes, la tristesse, non pas diminue, mais s'estompe, disons. S'estompe pour regarder le monde autour. Parce qu'au fond, c'est ça, revenir à la vie, c'est regarder le monde autour.
Qui s'était effacé.
Qui s'était effacé complètement. Alors, ce sont nos tout petits flashs. Tu sais que j'écris souvent des petits flashs. Le fleuve bouge vertical, inondant de sa mélancolie grise les traces des hoche-queues bondissant sur les cailloux gelés. Il y en a un que je vais lire parce que il est assez atroce. Il est assez atroce, mais moi j'aime bien. C'est une constatation que nous avons tous fait un jour de ce qui est l'avancement vers le bout de la vie, l'avancement des vieillesses, vers la vieillesse. C'est aussi un flash. Au-dessus de cuisses labourées, reconstruites à l'envi de peau cellulitique, une erreur de meurtrissure, un pubis graisseux incongru, et le plein de seins lourds qui ont depuis longtemps oublié à quoi ils servaient, le sang forme, le boursouflé, les muscles réduits à des souvenirs perdus qui vivent dans nos peaux et frissonnent encore malgré tout.
Alors là, on peut dire que, bon, il y a un regard aussi qui est un peu un regard clinique.
Clinique,
sur l'événement.
Tout à fait, le regard clinique sur l'événement. Et alors quelquefois, assez souvent, je fais un dialogue dans un texte. Un dialogue avec, pas forcément avec moi, un dialogue. Un vent de palme glisse sur les pousses vertes des pins duveteux, où sont mes yeux passés, qui brillaient de vous voir, vous mes hommes enchantés, dont les arpèges sont gravés comme une dent incluse sournoisement pulsatile dans une peau ressuscitante. Et le second qui parle dit « Donne au vent qui passe toutes tes vieilles peurs, tes branches à dépecer, tes amours sont là qui te tiennent la main, se posent sur ton cou et effleurent tes lèvres le soir. » Et on répond « Je creuse pour toi les rigoles, remplis d'eau les montagnes, aime-moi toujours. »
Je suis sur les nuages aussi peut-être. Je dors sans rêve, j'ai oublié tous les printemps, rembobiné, pacte impossible, imaginaire incohérent, insoutenable angoisse. Heureusement, dans les nuages, on ira oublier tous nos souvenirs. Je trouve que c'est symbolique aussi de la posture, c'est-à-dire à la fois cette lucidité, qui est une lucidité assez paralysante, c'est noir. Et puis de relever la tête vers les nuages justement, vers ce ciel là. Et allez, on va là peut-être dans les nuages, on ira oublier tous nos souvenirs.
Les nuages me fascinent assez, je dois dire.
Oui. D'ailleurs, ces merveilleux nuages, c'était François Sagan qui avait repris ça d'un vers des Loires, non, c'est ça?
Je crois bien. Oui. D'ailleurs, le premier de dialogue d'outre nuage est une conversation aussi. Oui. Ton fauteuil est sur un nuage, mais est-ce bien stable un nuage? Pas trop, mais je vois tous les couchers de soleil. Reste avec moi, je veux que tu existes. Respirons l'air de la jetée, fantôme de fenêtre ouverte. Et à la fin de la période tard, je vais te lire celui-ci parce qu'il il commence à l'écrivain est un bien grand mot et cherche à sortir de ça. Le voici. Le monde tourne carré et à chaque soubresaut je bute pour occuper le temps que tu as laissé vide. Le vermillon limite un désert jusqu'au bout des yeux où un ramassis d'éprouvé peine à tenir debout. Alors là déjà tu vois le monde et les gens.
Oui. Donc le décor se remet en place.
Voilà, le décor se remet en place.
Oui. Parce que il y a c'est un choc psychique qui fait que les choses disparaissent avec ce choc.
Complet.
Oui. Et après, je trouve que l'écriture aussi a une même impulsion psychique aussi énorme, l'écriture. Traduit aussi cette pulsion psychique. Il y a quand tu dis que les choses, c'est traduire aussi cette pulsion psychique. Hein,
oui, bien sûr.
Et qui ramène après, petit à petit quand même, ça ne se fait pas. Je pense qu'il y a la volonté de se faire au jour aussi pour arriver à de nouveau revoir cette brume,
sortir de cette brume,
disparaître.
D'ailleurs, dans la section suivante, là, qui est toujours le premier, est joyeux finalement. C'est une vision
passagère.
Une brochette de nymphette passée sifflotant sur la rive en goguette, cheveux lâchés, blouse foncée et le même sourire copié sur la voisine d'à côté. Un rêve sans souci, une effluve de vie qui passe.
Oui, ça c'est le flash, on te voit très bien regarder. Voilà. Et dire, bon, en définitive. Ce que tu disais d'ailleurs précédemment là dans Desinvolteros, comment je peux être là sans que toi tu ne sois pas là, hein? Et dans ce texte, ça veut dire aussi, eh bien, même quand moi je ne serai pas là, il continuera à y avoir une brochette de nymphes, etc. Le monde continuera à exister et souvent d'ailleurs c'est ce qu'il y a de plus difficile à vivre aussi, de se dire tiens, le monde va continuer d'exister, les choses seront, et moi je verrai pas ça.
Oui, mais c'est l'espoir, heureusement qu'il continue.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est terriblement douloureux de savoir que ce monde qu'on aime tant sera sans nous.
Non, on le verra de là-haut.
Voilà.
On le verra du nuage.
Je pense à Salvador Dali, par exemple, les derniers temps, dans son hôpital de Figueras, qui était dans une rage folle, parce qu'il disait, mais j'aurai tout pour être bien dans ce monde, etc. Et il va falloir quand même que je le quitte.
Et oui. Voilà.
Et il était dans un état de fureur, lui. Il était furieux de ça.
Oui, il était souvent furieux.
Toi, ce n'est pas. Il peut y avoir. Là, j'ai une phrase aussi d'un poète norvégien, Nordbergen, il s'appelle. Il dit : la parole poétique ne reste vivante que si l'espace symbolique se défait, se désunit jusqu'au déchirement. Par excès de tension psychique que la fureur verbale réalise. Bon. Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait une fureur verbale dans tes textes, mais. Il y a cette force que donne le langage quand il va sortir, justement par cette tension psychique que l'on ressent.
Et ce qu'il y a, c'est qu'à la fin, quand même, je retombe sur des choses plus... pas plus gaies, mais... Je finis bien chaque chose.
Oui, mais parce qu'il y a chez toi, quand même, on le voit en filigrane, un amour incommensurable de la vie.
Oui, je pense que mon métier m'y a beaucoup aidé.
Ah oui, 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 c'est même extraordinaire, cet amour de la vie qui arrive presque à tout vaincre, quoi.
Oui, parce que quand tu sors un bébé, de là où il sort, et qu'il vit et qu'il se met à crier, c'est d'un bonheur sans égal.
Oui.
Par exemple. Oui.
On t'écoute. Dans cette dernière partie, donc.
Je me rappelle plus ce que j'avais noté. 30. Une théorie de réverbère éteint scande les moutons nuageux mal balayés dans un ciel crémeux. La musique urbaine racle ses notes agressives sans couvrir le vacarme des étourneaux de passage. Le soir s'efface et se détruit. Il est le monde, il est le bruit. Et fantasme majuscule, il est l'odeur qui les enlace.
Alors là aussi, le soi s'efface et se détruit.
Oui.
Donc il y a aussi une abnégation dans ces textes. L'oubli de soi-même, qui est quand même très difficile.
Oh non, c'est pas difficile. À condition que tu regardes autour de toi. Enfin, moi, je trouverais ça difficile. Les années auront passé, celles que je n'ai pas vécues, brinque-ballant mon corps fané, nacré de rire et amour échangé, quand les années auront séché l'éclatement de nos fusions, ouvriras-tu les bras pour moi, que j'y finisse les années, épelant nos éternités. Oiseau noir sur boue et jaune. Eau boueuse, pomme perdue, vent couché, gris pastel sans oranger, le clap guttural de l'eau frappe la brique, une paix vermoulue et sereine englue l'air que structurent seuls les cris des mouettes, agrafant les nuages comme autant de rubans. Encore les nuages.
Oui.
Le poème rêve de Samarcande et des ports qu'il ne verra jamais. Les oiseaux courent après leur ombre. Sur le miroir glauque du fleuve en crue, le soleil est à l'horizontale, point d'or sur une barque surannée. À l'ombre d'un tronc, je regarde le soleil friser les cheveux des filles. Le parapet mité se tartine de rayons. Les jupes volent sur leurs trottinettes. Comment ne pas désirer le calme de ce printemps? Les pigeons papotent, balançant les plumes de leur cou, entre vert et améthyste, pareil à l'eau du fleuve en bas. Et le dernier de ce toujours est une forme d'espoir nuageux, si tu veux. Dans les cieux bleus à lavande des débuts de printemps, le soleil est perdu pour la semaine. C'est l'heure de te dire bonsoir. Je ne sais dans quel nuage tu es. Si tu rencontres mon amant, parle de moi tous les deux.
Voilà, on peut aussi voir. Alors, il y a un texte aussi où tu parles des mères pélicans.
Ah oui.
J'ai aimé ça. Envoyer les mères pélicans dans une impasse de l'univers, se noyer dans une mer de nuages, juste avant la pluie, ramer entre quelques étoiles et ne penser qu'à vous, toujours.
Toujours.
Alors, Mère Pélican.
Alors, ce que c'était que la Mère Pélican, c'était un groupe de mères qui m'avaient horripilé. Parce qu'elles étaient sur leur gosse en permanence.
Oui.
En train de les nourrir, ça m'avait horripilé.
C'est le symbole du Pélican qui, voilà. Qui nourrit ses petits de son sang.
Exactement.
Alors, de ce livre, il y a, bon, c'est très structuré, mais là on retrouve la Simone scientifique, hein, médecin, où il faut que les choses soient à leur place, sinon,
oui.
sinon on n'avance pas. Bon, et donc classé, il y a cette espèce de classement, on passe d'une situation à une autre et on met ça sur dans des cases, tôt, tard, toujours. Mais il y a surtout, dans ce recueil, d'abord il y a du plaisir à le lire. Hein. Il y a plaisir à le lire, et c'est peut-être un des premiers critères de la poésie, de la bonne poésie, c'est le plaisir que l'on prend à le lire, à lire les textes. Et ce plaisir, il est difficile à analyser souvent. Il y a le plaisir certainement de l'émotion que l'on ressent, mais également aussi de ce que les mots renvoient comme idée, comme image, mais comme idée aussi. Et dans des agencements qui sont des agencements que l'on découvre, qui ne sont pas des agencements convenus. C'est ça qui crée le plaisir et qui crée l'intérêt de la poésie, dans lequel je pense qu'il y a un nombre innombrable de gens qui vont se retrouver dans ces textes. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous connaissent ce genre d'épreuves et vont pouvoir trouver dans l'ensemble des mots que tu as noués les uns aux autres, dans cet agencement qui t'est personnel et qui est unique, et ils vont trouver leur émotion.
Leur émotion.
Et c'est pourquoi je pense que quand même, la poésie a une utilité pratique. Parce que ça, je crois que c'est aussi un bienfait. Hein, de pouvoir lire un livre. Alors, le plaisir que l'on a, ce n'est pas nécessairement, comment dirais-je, un plaisir hédonique. Il peut y avoir du plaisir à dire des choses même tristes, même noires. Hein, mais si elles sont bien dites et si on ressent quelque chose, si on comprend qu'on est touché par cette chose-là, bien entendu, ça va être du domaine du plaisir.
Du soir,
voilà, du soir. Voilà.
J'ai beaucoup d'amis qui me disent que ils ont mes livres sur leur table de nuit et que le soir avant de s'endormir, ils en lisent un bout et que ça leur fait du bien.
Oui.
Écoute, moi j'ai pris ça pour un grand compliment. Hein.
Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais d'ailleurs, bon, la poésie, ça sert à ça aussi.
Hein, oui, ça sert à ça.
Voilà.
C'est sûr.
Donc les dialogues. Au pluriel, d'outre nuages, poésie. Alors, vous pouvez vous procurer, ainsi que Désinvolte Eros, vous pouvez vous procurer ces livres en les commandant, je pense, tout simplement, par messagerie.
Absolument. Hein.
C'est Daramali, alors Daramalie, daramali,
@free.fr. Non, free parce qu'il ne marche plus, c'est Gmail.
Bon. Alors, je répète, daramali@gmail.com. Gmail.com. Vous trouverez l'ensemble de ces coordonnées sur notre site les-poètes.fr, qui prolonge toujours ces émissions que je vous invite à voir, puisque vous avez toutes les informations sur la poésie contemporaine, les événements, et même les événements de la culture occitane. Voilà. Simone, on va peut-être finir sur la lecture de textes. Mmh. Soit tu peux revenir sur Désinvolte Eros, soit tout simplement sur Syllabe, comme tu veux.
Je vais t'avouer quelque chose.
Si tu avais peut-être des inédits.
Je vais t'avouer. Oui, j'avais des inédits.
Ah, mais alors là, c'est encore mieux. Oui.
Qui sont encore, comme je vous dis, en macération. Parce que, comme tu dis, je suis un peu rangée. Donc les choses macèrent dans un tiroir.
Donc on a le plaisir de savoir que un autre livre est en préparation.
Voilà, tout à fait.
Ça c'est essentiel quand même. Je pense à tout à l'heure, je parlais de Gilles Lade. Je sais que Gilles Lade a des angoisses terribles quand il pense que peut-être la source pourrait se tarir.
Et ça arrive de penser ça. Ouais.
Lui, ça l'angoisse terriblement.
Il est angoissé, à lui, de toute façon. Là, je vais t'en lire. Alors, un petit qui est en macération. Le jour où j'aurais eu besoin d'une main, il n'y avait pas de main. Le jour où j'aurais eu besoin d'un regard, ils étaient sans sourire. Le jour où j'aurais eu besoin de larmes, il ne restait que les miennes.
Un peu désespéré, ça.
Oui.
Mais il y a cette lucidité toujours, hein.
Le vent souffle sur le soleil et baritone sous les arches du pont. La coupole verdie protège les passants. Par un si beau matin, le fleuve se pave au grisouille. Tu sais d'où ça vient, baritone? Je crois que c'est de Rimbaud. Non. C'était pas question du vent. Il était question d'un truc semi-pornographique que ma grand-mère m'avait lu parce que ça l'avait beaucoup amusé. Il s'agissait d'un vent expulsé en baritonnant.
Ah, ça peut être du Rimbaud, effectivement. Hein. Il a des textes là-dessus. Et le dôme Verdi, c'est évidemment le dôme de l'hôpital La Grave.
Oui.
Hein, tu parlais d'enfantement tout à l'heure.
Oui.
Et c'est là où il y avait les maternités historiques de Toulouse.
De Toulouse. Je me retrouvais l'été dernier de l'autre côté, et je regardais ces dômes qui sont dans toutes les villes,
oui.
Et qui ont tous la même structure.
Oui.
Et je me disais que cette chose mamelue, avec un bout pointu, au fond, c'était la première chose qu'un bébé voit en naissant.
Oui.
Pourquoi pas?
Oui.
Psychanalytiquement, ça c'est
oui,
fort.
Oui, tout à fait. La coupole en sein maternel.
Voilà.
Pour les maternités. Malheureusement, je crois que cette coupole, ensuite, ça a été la chapelle où il y avait les offices funèbres.
Ah oui. Eh bien, ça tourne.
Oui. Un dernier texte.
Allez, un dernier texte
dans les inédits.
Dans les inédits. Du temps où je riais, tu brillais devant moi. Depuis, seuls les oiseaux flétrissent le blues des 18 heures. Les grises vagues glissent sur le crépi des murs fanés. Sans désespérer les mères amoureux, que pensent les nuages, eux qui voient tout d'en haut, de nos chagrins, de nos rancunes, de nos bonheurs de quelques heures, de fleurs écloses, des coraux en émoi dans le vent de l'eau? Les nuages, je crois, ne pensent pas.
Merci, Simone. Alors, nous rappelons Simone Liederhan, vous pouvez vous procurer Syllabes aux éditions Encre Vive, c'est le numéro 450 de la revue Encre Vive, en s'adressant à Michel Cozem, deux allées des Allobroges, 31 770 à Colomiers. Et puis, Dialogue d'outre-nuage ainsi que Désinvolte Eros à commander à daramali@gmail.com. Voilà. Merci beaucoup, Simone.
Merci à toi.
À très bientôt. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adicias.